VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. En République démocratique du Congo, catastrophe ferroviaire dans le sud-est du pays, bilan provisoire au moins 50 morts, des passagers clandestins à bord d'un train de marchandises aux environs de la localité de Mayi Baridi dans le Tanganyika, province située au bord du lac du même nom. Selon le ministre congolais des Affaires humanitaires Mbikayi, le déraillement a eu lieu à 3h du matin. Victor Mumba, président de l'intersyndicale de la Société nationale des chemins de fer, précise pour sa part qu'il s'agissait d'un train de marchandises partant de Nyunzu vers la gare de Niemba. Deux wagons se sont couchés, a affirmé le leader syndical. Zimbabwe, la famille de l'ex-président Robert Mugabe a annoncé ce jeudi que le père de l'indépendance du Zimbabwe serait enterré en début de semaine prochaine dans l'intimité de son village. Épilogue de plusieurs jours de tension entre une partie de ses proches et le gouvernement zimbabwéen. Depuis la mort de Robert Mugabe, le lieu de l'enterrement faisait l'objet de délicates tractations. Le gouvernement de son successeur Emmerson Mnangagwa, qui a fait du disparu un héros national, souhaitait qu'il soit inhumé dans le champ des héros de la nation, un monument en lisière de la capitale où reposent les combattants de la guerre de libération. Mais une partie de sa famille et les chefs traditionnels préféraient que l'ex-président Mugabe repose dans le village de Kutama, dans le district de Zvimba, où le défunt possède une maison. Le village est situé à une centaine de kilomètres de Harare, la capitale. Des obsèques nationales sont prévues pour le père de l'indépendance du Zimbabwe et beaucoup de leaders africains sont attendus à Harare. En novembre 2017, l'armée zimbabwéenne a poussé Robert Mugabe vers la sortie. Abdourahmane Dia a demandé au président guinéen Alpha Condé, en visite à Washington, ce qu'il retenait du leader disparu.
Mugabe a été un très grand président, une fierté pour l'Afrique. Parce que peut-être que vous êtes jeune pour ne pas savoir que c'était la rupture du Sud quand Ian Smith a décidé, contre l'avis de l'Angleterre, de créer une sorte d'État blanc en faisant des Noirs de Bantoustan. Mais il faut reconnaître aussi que les accords de Lancaster l'Angleterre s'était engagée à indemniser les fermiers blancs pour qu'on puisse faire la réforme agraire, ce qui n'a jamais été respecté. Pendant un moment, l'économie du Zimbabwe allait très bien parce qu'ils étaient des grands fournisseurs de maïs et le grenier. Mais comme l'Angleterre n'a pas respecté ses engagements, évidemment, Robert Mugabe a fait la réforme agraire. Malheureusement, ça a été un peu plus politique que vous pouvez le dire. On a donné aux anciens combattants et autres qui n'étaient pas les mieux indiqués pour cultiver. Donc ça a fait que l'économie a baissé. Évidemment, à la fin, il y a eu beaucoup de problèmes avec le comportement de sa femme. Mais on ne peut pas oublier qu'il arrive qu'un nègre vole plus bas qu'une poule, mais une poule ne volera jamais plus haut qu'un nègre. Donc, pour moi, quelles que soient les vicissitudes, Mugabe reste un nègre.
D'accord. Est-ce que vous regrettez la manière dont il a été poussé à la sortie?
Vous savez, le président actuel a été un des principaux lieutenants du président Mugabe. Il a été formé en Chine et il l'a accompagné tout le temps. Le drame, c'est le comportement de la deuxième femme de Mugabe, qui a voulu mettre de côté tous les héros de la guerre. Étant donné que Mugabe était fatigué, elle a voulu manipuler. Donc c'est ça qui a été la cause. C'est moins dirigé contre Mugabe que contre elle, parce que le président actuel est quand même un historique. Il a suivi dès le début la lutte armée. Donc ces gens-là, aujourd'hui, sont quand même les compagnons de Mugabe.
Le président guinéen Alpha Condé à Washington. Politique au Nigeria, le tribunal électoral du Nigeria a confirmé mercredi la réélection du président Muhammadu Buhari en rejetant les plaintes de son principal adversaire politique qui dénonçait une fraude massive pendant l'élection du 23 février 2019. Les détails avec Gilbert Tamba à Abuja.
C'est l'épilogue après les recours déposés devant le tribunal par le candidat du principal parti d'opposition, le PDP, lors du scrutin présidentiel du 23 février dernier. L'ancien vice-président Atiku Abubakar, candidat du PDP, contestait la validité de la victoire du président Muhammadu Buhari qui a déjà commencé son second mandat. Selon Atiku Abubakar, une enquête sur le serveur central de la Commission électorale nationale indépendante a montré que le PDP avait accueilli plus de 18 millions de voix, alors que les résultats définitifs de la CENI lui donnaient un peu plus de 11 millions de voix. Atiku Abubakar a également accusé le président Buhari d'avoir menti sur ses diplômes et devait donc être disqualifié. La commission électorale a nié ces accusations et les avocats de Buhari ont déclaré que le président était tout à fait qualifié. Le tribunal a jugé que l'ancien vice-président Atiku Abubakar n'avait pas fourni des preuves suffisantes de fraude qui pourraient entacher la crédibilité du scrutin. Le président Buhari peut se concentrer maintenant sur ses promesses électorales pour son second mandat, lutter contre la corruption et venir à bout des groupes Boko Haram.
Gilbert Tamba à Abuja, au Nigeria.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant. Au Nigeria, les corps de 9 soldats nigériens ont été découverts et on est toujours sans nouvelles de 27 autres portés disparus après l'attaque d'un convoi militaire lundi dans le nord-est du pays. Une embuscade revendiquée mardi par l'État islamique en Afrique de l'Ouest, une faction du groupe djihadiste Boko Haram. L'attaque contre le convoi a eu lieu sur la route entre Damasak et Goudoumbali dans l'État de Borno et l'État islamique en Afrique de l'Ouest dit avoir fait des dizaines de morts et saisit 10 véhicules militaires ainsi que des armes et des munitions. Pour sa part, l'armée nigériane annonce avoir détruit 2 véhicules des militants islamiques. Toujours concernant les violences dans le Sahel, au Mali, un soldat a été tué et 7 autres blessés mercredi dans la région de Tombouctou, dans le nord du pays, lors d'une embuscade tendue par des hommes armés. Les FAMA, les forces armées maliennes, ont riposté grâce à des renforts venus de la ville voisine de Goundam. Les militaires blessés reçoivent des soins à l'hôpital de Tombouctou. Et toujours concernant le Mali, le collectif citoyen qui bloquait depuis 4 jours l'accès à l'aéroport de Tombouctou dans le nord du pays pour réclamer la construction d'une route a levé son blocus mercredi après avoir reçu des garanties du gouvernement malien. Mais à Gao, la métropole du nord, des milliers de manifestants continuent de réclamer des mesures similaires. Abdourahmane Dia.
Un protocole d'entente a été signé entre le gouvernement et le collectif Tombouctou réclame ses droits pour la levée du blocus, selon le porte-parole du gouvernement Yaya Sangaré qui était sur place. Le gouvernement s'est engagé à reprendre au plus tard, le 25 novembre, les travaux sur la route reliant Tombouctou, Niafunké et Léré. En échange, le collectif a accepté de lever immédiatement toutes les restrictions sur les routes et le blocus de l'aéroport de la ville dite au 333 Saint. Par contre, des milliers de personnes ont manifesté à Gao contre la dégradation de l'axe routier Gao-Sévaré. Un collectif a aussi été formé à Menaka, près de la frontière avec le Niger, et mène un sit-in depuis lundi avec des revendications similaires. Toutes ces manifestations interviennent 2 semaines après la libération par le gouvernement de fonds d'urgence pour la réfection de la route entre Bamako et Kaye à la frontière avec le Sénégal, qui a été bloquée pendant plusieurs jours à la fin août.
Actualité américaine maintenant, les 10 principaux candidats à l'investiture du Parti démocrate en vue de la présidentielle de 2020 s'affrontent dans un nouveau débat ce soir à Houston au Texas. Les sondages donnent l'avantage à l'ancien vice-président Joe Biden. Les précisions avec Eric Manirakiza.
Ce soir, les 10 candidats occuperont à Houston le même podium à la Texas Southern University, université historiquement réservée aux Noirs. Certains candidats ont déjà abandonné la course, d'autres en mauvaise posture dans les sondages qui n'ont pas satisfait aux exigences en matière de collecte de fonds ont été exclus. Le favori Joe Biden dit qu'il peut battre facilement le président sortant Donald Trump, mais il est talonné par le sénateur Bernie Sanders du Vermont et la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren de l'aile gauche du Parti démocrate. La sénatrice de la Californie, Kamala Harris, et les autres vont essayer de s'élever pour inverser la tendance. L'assurance santé, la réglementation des armes à feu, l'immigration sont des thèmes qui unissent les démocrates, mais les candidats ne s'accordent pas sur les solutions. Ils vont aussi concentrer leurs attaques sur le président Trump. D'autres débats sont prévus avant les primaires du Parti démocrate l'année prochaine.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.